Vous écoutez
RMC.
Voulez-vous qu'on aille prendre un verre de vin chaud?
RMC jusqu'à midi.
Encore un verre, pays merveilleux.
Les grandes gueules du sport.
Oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce.
Georges Quilino.
Bonjour à tous, bienvenue dans les grandes gueules du sport. On est ravis d'être avec vous. Vous l'avez compris, hein, je pense, on est à la montagne, à l'Alpe d'Huez pour les RMC Sport Games. Bah voilà, bah écoutez, ils sont tous en très grande forme. Ils ont l'habitude d'aller sur les pistes chaque année pour impressionner sur les pistes, sur toutes les pistes hein, d'ailleurs, hein, les pistes de ski, les pistes de danse. Non, on est là pour évidemment passer de très bons moments et les partager avec vous. Christophe Cession accompagne ce matin. Salut Christophe.
Bonjour. Je vais vous raconter une anecdote quand même sur Denis Charvet, sur ses débuts en ski hier. Ouais. Parce que quand même, je sens qu'il perd un peu de niveau année après année. Il a voulu attaquer une piste en poudreuse dès sa première piste. Ouais. Et ça a été une catastrophe ambulante.
Très bien. Il faut quand même expliquer à nos auditeurs que Christophe a également une réputation de blesser des gens sur les pistes chaque année. Hein.
Tout le monde va bien. C'est arrivé une fois en 20 ans.
Du fact-checking tout de suite avec Denis Charvet. Salut Denis.
Salut Georges.
Denis, c'est vrai que ça s'est pas très bien passé sur les pistes hier?
Très bien passé. Tu sais, je volais sur la
piste. Tu volais, mais sous la neige. Faut que t'arrêtes de regarder des cérémonies avec Donald Trump, parce que ça te donne de mauvaises idées.
On m'a pris pour Bastoun.
On t'a pris pour
Sébastien,
bien,
ouais.
Ouais, c'est vrai.
Le mec m'a dit Sébastien, je me suis rendu.
Mais non, t'as des cheveux, Sébastien, maintenant. C'est incroyable.
Non, mais je veux dire, nous, du style, tu vois. Tout,
bien sûr. Tu te compares tout simplement à un médaillé olympique, vainqueur de la Coupe du Monde. Tout à fait normal. Sarah Pitkowski est là. Salut, Sarah.
Bonjour, messieurs, bonjour à tous. Mais si Denis a été très bon sur la piste.
C'est vrai?
Mais passer une certaine heure, exactement.
Ouais. Passer une certaine heure.
Moi, on m'a pas dit ça. Il avait été exceptionnel.
Mais j'ai voulu reposer des plus grands, j'ai vu.
Je me suis reposé hier.
Vous avez.
Pourtant, t'as pas les yeux de celui qui s'est reposé ce matin, quand même.
T'as plutôt les yeux de celui qui a encore besoin de se reposer.
Ouais, bagnon.
Très bien. Pas de souci avec ça. Julien Benneteau,
le boulier.
Salut Bennett.
Ça, c'est un vrai skieur.
Alors, Bennett, moi, on m'a dit. Attitude sur les skis comme Roger Federer sur les cours de tennis.
C'est un vrai compliment. Non mais j'ai skié avec Chris et Denis. Ouais. Après, à part les 4 premiers virages de Denis où il a déchaussé tout seul, où là on a rigolé. Ouais. Après, on a vraiment fait grâce à Sébastien Amier, on a passé vraiment une journée fantastique avec Chris et Denis.
Pourquoi tu sais aussi bien skier? Tu faisais partie des tennisman qui avait le droit de jouer.
J'habitais pas loin de. Étant originaire de Bourg-en-Bresse, mes parents adorent le ski. Ouais. Bah, à 1h30, on a des belles stations. Et donc, depuis que je suis tout petit, j'allais tous les week-ends au ski à partir de fin novembre jusqu'à mars. Donc, j'ai la chance d'avoir pu avoir ça de 3 à 12 ans.
J'ai la chance d'avoir un certain talent.
Et ça se perd pas,
Comme
le vélo. Mais c'est comme le vélo, ça se perd pas.
C'est juste la chance d'avoir pu aller au ski très souvent quand j'étais petit.
Quelle humilité. Merci pour ça, pour cette leçon de vie que tu nous donnes ce matin.
Ça change, c'est ça.
Et encore, on n'a pas Jérôme Rotten, t'imagines.
Ah oui, c'est vrai.
Jérôme, il skie que sur son pied gauche, c'est assez impressionnant. Je vous invite à le regarder un jour. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter chaque samedi, évidemment, en podcast. Évidemment, on a un gros programme jusqu'à midi dans vos grandes gueules du sport. À 10h sur le ring, un tout petit Marseille s'est incliné hier à Lille. 1-0 en ouverture de la 15e journée de Ligue 1. A-t-on vu l'OM trop beau depuis le début de la saison? Supporters marseillais, venez au 32-16 et votez sur le compte X des GG du sport. Ils ont encore raté une opportunité de prendre la première place. La punchline en rugby, à la différence du foot, on va en parler dans quelques instants. Les Bleus ont eu un tirage plutôt clément pour la prochaine Coupe du Monde dans 2 ans. D'accord, Denis,
oui,
tu confirmes.
Très clément.
Cela ressemble à une occasion en or. Le top 14 doit-il encore plus se sacrifier pour le 15 de France? Encore plus, donner plus de pouvoir à Fabien Galthié. On va voir si on peut le faire. Sur le buzzer tout à l'heure, dernier week-end de Formule 1. Alors là, je vous le dis, c'est l'événement du week-end hein, pour moi. Le titre se joue entre Norris, Verstappen et Piastri demain à Abu Dhabi. Vous ne raterez rien sur RMC Qualif aujourd'hui à 15h. On va poser cette question un peu provoque qui tourmente Julien Benneteau depuis des jours. Red Bull est-il mieux armé que McLaren pour le titre? Réfléchissez-y déjà. Ne pensez pas seulement aux deux voitures Red Bull.
Il donne des indices.
Voilà. Le zapping et le vestiaire. On va parler à travers vos expériences du besoin de faire une pause quand on est sportif de haut niveau, comme l'a fait le capitaine du Barça, Ronald Araujo. Assez intéressant ce qui s'est passé cette semaine en Catalogne et inhabituel. Et c'est pour ça que ça va être intéressant d'en parler avec vous. En fin d'émission, participez au jeu du sport avec vos GG. Vous en avez l'habitude maintenant. Aujourd'hui, remportez votre montre Villa Bleu de Kelton, la marque icône pop de l'horlogerie française qui fête ses 70 ans. Pour gagner votre montre Kelton, appelez le 3216 touche 4 ou envoyez sport au 732-16. Sport au 732-16. 32-16 pour participer au débat, évidemment. Mais d'abord, donc, nos bleus du foot savent désormais ce qui les attend s'ils veulent conquérir l'Amérique et le monde.
RMC, la une des grandes gueules du sport.
Griezmann face à Subasic, les bras écartés le long de la ligne. 2-3 pas d'élan, la frappe de Griezmann, le contre-pied parfait. Et le but. Mbappé, la frappe enroulée. Qui dégage et Pitana qui siffle. La France est champion du monde. La France a sa deuxième étoile. Les Bleus sont champions du monde en battant la Croatie 4-2. 20 ans après le titre de 98. Mbappé regarde l'arbitre. Mbappé a regardé le ballon. Mbappé a regardé Martinez. Mbappé qui s'élance. Oui. Kylian Mbappé qui marque le troisième but. 3 partout entre l'Argentine et la France.
Vas-y Hugo. Hugo fait là. Hugo sort là. Maintenant. Avec la course de Montiel. À contre-pied, c'est fini. L'Argentine est champion du monde. À la séance de tir au but.
On est champions. On est tous ensemble. C'est le grand jeu.
C'est bien parce qu'on met le genre de musique pour nous porter chance en fait. Pas du tout pour nous mettre le démon déjà. Didier Deschamps n'a pas forcément eu de chance au tirage au sort pour son dernier mondial comme sélectionneur. Il n'y aura pas de tour de chauffe hein, pour les Bleus à la Coupe du Monde de foot l'été prochain. La France affrontera en ouverture du groupe I le champion d'Afrique 2022, le Sénégal de Sadio Mané. Ça sentira bon, tiens, les retrouvailles en 2002, souvenez-vous, ça s'était pas très bien passé. Il y aura aussi la Norvège d'Erling Haaland dans le groupe. Le troisième adversaire sera le vainqueur du barrage entre la Bolivie, le Suriname et l'Irak. Les Français joueront sur la côte Est des États-Unis entre New York, Philadelphie et Boston. On aura le détail précis aujourd'hui à 18h. Ce sera à suivre sur RMC. Il y a encore une cérémonie pour faire le calendrier. Bref, show à l'américaine. Encore, on s'est déjà régalé hier. Les GG, je vous pose la question ce matin. Oui ou non, la France est dans un groupe relevé. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, Christophe Cessieux?
Ah, pour moi, c'est une très très bonne nouvelle.
Denis Charvet.
Bonne nouvelle.
Sarah Pitkowski.
Moi, je suis aussi sur le côté positif. Bonne nouvelle.
Julien Beneteau.
Ouais, je rejoins mes camarades.
On n'a pas de débat, donc on a parfaitement préparé cette émission.
Bravo.
Bravo. Bravo, bravo.
Venez au 32-16, évidemment, nous dire si vous n'êtes pas d'accord. Bah, même Didier Deschamps, hein, s'il veut venir, nous dire qu'il n'est pas forcément d'accord avec nous. On l'attend. Jean-Louis Tour, la voix des Bleus sur RMC, est avec nous. Salut Jean-Louis.
Salut tout le monde.
Salut Jean-Louis.
Salut Jean-Louis. Et donc, toi, tu penses quoi? C'est une bonne ou mauvaise?
Ouais. Bah oui, moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle.
Il n'y a pas de débat, alors.
Bon, alors, tu peux y aller.
C'est une bonne nouvelle pour toi, parce que tu vas aller sur place et que tu trouves ça sympa.
Non, après je vais développer, mais non, je trouve ça pas mal, ouais.
Jean-Louis qui est venu avec ses carnets qui ont été utilisés hier pour le tirage au sort. Il fallait s'accrocher hein, pour le tirage au sort pour tout comprendre.
Non, ça va. Ça va. Il y a eu une phase un peu phase... trouble avec l'Ouzbékistan, mais sinon à part ça, ça va.
Ouais, il y a quand même, tu sautes d'un groupe à l'autre. Oui. C'est quand même pas super visible et lisible. Hein.
Non, c'est sûr, c'est sûr.
Jean-Louis, alors j'ai un peu regardé les médias internationaux depuis hier, notamment les médias hispaniques. Voilà, j'ai beaucoup entendu l'expression « Grupo de la Muerte » pour la France, traduction « Groupe de la Mort oui. ». Est-ce qu'on a vraiment le pire groupe, en fait, du tirage?
Oui, moi hier, pendant le match, je disais qu'on avait pris le groupe de la mort, parce que mais ça reste à l'échelle de cette Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'on a l'habitude d'avoir des groupes de la mort bien plus relevés, mais là, il faut s'adapter à cette nouvelle formule, puisqu'il y a 12 groupes, bah forcément, les têtes de série, les meilleures équipes sont plus réparties, et donc ça donne moins de chances de les affronter dans notre groupe. Donc, c'est le groupe de la mort par rapport à ce tirage, mais c'est quand même un groupe tout à fait abordable. Mais ce qui est vrai, c'est que dans chaque chapeau, j'ai l'impression qu'on prend un des pires adversaires possibles. Le Sénégal, ils sont vainqueurs de la CAN en 2021 et ils font partie des favoris pour la prochaine CAN, voire le favori pour la CAN qui arrive en décembre, janvier prochain. C'est une grosse équipe avec plein de gros joueurs. Les Koulibaly, les Mané, les Jackson sont encore là. Donc ça, c'était dans le chapeau 2. Dans le chapeau 3, la Norvège, c'était l'équipe la mieux placée de ce chapeau. Donc avec Erling Haaland, bien sûr, qui a été monstrueux en phase de qualif. Il a mis 16 buts en 8 matchs.
Bah oui. Ça va, c'est pas mal.
C'est pas 16 matchs, 8 buts. Hein. C'est non, vraiment 16 buts en 8 matchs.
Il n'y a pas de tromperie.
C'est impressionnant. Ils ont une génération exceptionnelle avec coup de garde d'Arsenal aussi. Et puis dans le chapeau 4, bah, là aussi, hein, prendre le potentiel sud-américain, parce que donc il y a quand même des chances que ce soit la Bolivie, même s'il y a encore des matchs de barrage à jouer. Bah, là aussi, dans ce chapeau-là, on prend un des adversaires les plus relevés. Là où on a eu de la chance, par contre, c'est sur l'emplacement. Didier Deschamps a accordé beaucoup d'importance à ça. On a assez peu de déplacements en étant au nord-est des États-Unis. Il va y avoir donc 3 matchs à New York, Philadelphie, Boston. Donc c'est vraiment concentré pour cette Coupe du Monde sur 3 pays qui va faire que certaines équipes vont faire des kilomètres
et même pour les supporters, d'avion. C'est très bien. Hein.
Voilà.
Coûte moins cher d'aller sur la côte est que sur la côte ouest.
On reste sur 3 villes quand même assez proches. Et si, par bonheur, on finit premier du groupe, bah, on restera encore dans ces 3 villes pour les 16e, 8e quart de finale. Donc c'est quand même très positif tout ça. Et en plus, je finis avec un élément. Autre nouveauté du tirage, les 4 meilleures nations. C'est comme au tennis dans un grand chelem. Les 4 meilleures nations, il est fait en sorte qu'elles ne puissent pas s'affronter avant les demi-finales. Donc on ne peut pas jouer l'Espagne avant les demi-finales. L'Argentine, on peut pas la jouer avant la finale, l'Angleterre non plus. Donc tout ça, c'est positif.
C'est le classement FIFA.
Oui, c'est ça, le classement FIFA.
Les 4 têtes de série du classement
exactement.
FIFA.
On est champion du monde alors.
Et en plus de ça, donc, annonce. En perspective, c'est l'Allemagne, pardon, le premier gros adversaire pour les 8e de finale éventuellement.
Tu restes avec nous, Jean-Louis, évidemment. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, ce tirage au sort corsé pour les Bleus? Christophe Cessieux, qui adore toujours les débats foot. Hein. Chaque fois, il est.
Bah, attends, c'est la Coupe
de France.
C'est la Coupe du Monde, là, quand même. C'est pas la foire à la saucisse, là.
Ah oui, mais bon. Oh. Moi, j'aime bien la foire à la saucisse, pas de problème avec ça. Hein.
Ouais. Attends, tu as dit très très bonne nouvelle.
Oui, la foire à la saucisse, tu l'as connue hier soir, toi. Je t'ai vu.
J'avais peur, j'avais très très peur que cette Coupe du Monde à 48 équipes fasse qu'il faille attendre 15 jours, 3 semaines avant de vraiment rentrer dans une compétition.
Bah, surtout qu'il y a des 16e
de finale. Si tu avais affronté le Panama, le Suriname et l'Ouzbékistan au premier tour, bonjour l'intérêt de la Coupe du Monde et bonjour l'intérêt du public français pour les Bleus. Je veux dire, il aurait fallu attendre les 16e. Les 8e évidemment pour commencer à s'intéresser. Là tu sais que dès le début, dès le premier match, il va y avoir de l'excitation parce qu'un France-Sénégal, on aura tous en tête ce qui s'est passé en 2002. Moi j'y étais à Séoul ce jour-là dans le stade lorsque la France s'est fait battre par le Sénégal. Et ben, je peux te dire que là on s'est dit on est vraiment entré dans la Coupe du Monde. On est très très mal entré dans la Coupe du Monde. On est vite sorti derrière. Donc j'espère que ce ne sera pas la même chose. Mais au moins il va y avoir l'excitation de la compétition. Et il y a un paquet de matchs qui vont être inintéressants du reste de la Coupe du Monde. Mais ceux qui vont concerner l'équipe de France vont être passionnants. Et donc, je trouve ça très bien. Et en plus, je pense que disputer des matchs face à des adversaires de bonne qualité, ça te permet ensuite d'être en jambes pour affronter les plus gros. Parce que derrière, à partir des huitièmes et des quarts, tu vas rencontrer les costauds.
Après, les amis, alors vous êtes tous très enthousiastes, mais non, très mais bien, après... positif. Hein, mais quand la France a été championne du monde, on sortait pas de groupe très performant. On sortait en 98 et en 2018 de groupe plutôt, allez, on va dire, entre
les deux. Et ça ne t'a pas championne du monde derrière. Il faut trois points et une différence de but pas trop mauvaise.
Parce qu'en meilleur du troisième tour.
Tu as des contre-exemples, tu as raison de le dire. Quand on est champion du monde, il y avait des poules facile à gérer. Mais après, c'est vrai qu'on a un exemple en 2002 qui pourrait nous faire dire non, que cette poule, c'est une poule de la mort. Mais en 2002, c'est un autre contexte. Souviens-toi, on sort d'un titre champion du monde. Les Français, ils sont dans la base pour se balader.
On arrive là-bas, on est déjà champion du monde.
Champion du monde.
Champion d'Europe, ouais. C'est
pas le même. Et puis on a un sélectionneur qui s'appelle Didier Deschamps, qui lui a une telle expérience. Qui est tellement aguerri par rapport à tout ça que je me fais aucun souci quand tu vas affronter le Sénégal ou la Norvège.
Non mais non. Là on a de la chance d'avoir des anciens sportifs de haut niveau. Vous avez participé à des grandes compétitions, que ce soit en tennis, en rugby, ou parfois vous avez eu à tirer des gros adversaires peut-être d'entrée de jeu. Pourquoi vous êtes si positif en fait? C'est bien parfois de commencer, je sais pas, à un Roland Garros face à un gros joueur, ça te met directement dans la compète.
Au tennis ça dépend parce que tu perds, le tournoi est terminé.
Il est terminé, ouais.
Alors que là, tu peux perdre un match et être qualifié. En fait, je pense que notre vision du groupe, comme il est, par rapport aux habitudes qu'on a sur les Coupes du Monde, aujourd'hui, il faut changer de vision de prise parce que il n'y a plus le mois de préparation. La finale de Ligue des Champions, elle est fin mai. Nous, on va commencer le 16 juin, mais ça va commencer le 11 juin. Il n'y a plus de préparation. Il y en a 3 qui vont être qualifiés, plus ou moins. Donc, à part un cataclysme énorme, se faire éliminer au premier tour, c'est pratiquement impossible. Et je pense qu'en fait, d'être tout de suite dans l'adversité, aujourd'hui, on n'est plus dans, on va monter en puissance, on va pouvoir faire tourner ou quoi que ce soit. Il n'y a pas beaucoup de matchs, même de préparation. Il faut arriver à trouver une équipe assez rapidement, qu'elle soit performante. Et après, à ce que les gars soient, comment dire, arrive à rester en forme tout au long de la compétition, alors qu'elle va être longue cette compétition, ça va être compliqué, mais d'être tout de suite dans le bain avec des gros matchs et avec une belle intensité, moi je pense que ça peut les mettre vraiment dedans pour la suite de la compétition.
Ouais, mais bon, après il y a peut-être le risque effectivement que les Français terminent à premier du groupe, mais Jean-Louis, si la France termine deuxième par exemple de ce groupe là, ça peut nous mettre en difficulté très rapidement pour la suite.
On prendra un deuxième de groupe, donc on aura un 16e moins abordable. Oui,
donc si t'es deuxième, t'affrontes un deuxième de groupe, pas forcément un premier, donc
oui après faudrait que je revoie le tableau là, que des projections, mais oui normalement c'est ça. Et encore pire si on finit troisième, là on prendrait un premier, donc c'est encore plus,
mais l'Allemagne
plus problématique.
Dans quelle configuration on prend du groupe en 16e, en 8e, mais en premier du groupe on prend l'Allemagne en 8e, mais oui. C'est dur. Donc si on finit deuxième, oui, peut-être qu'en 16e ce sera un peu plus difficile que notre 16e si on termine premier, mais à l'arrivée le tableau il sera aussi difficile.
Si on finit deuxième, on peut prendre par exemple la Côte d'Ivoire ou l'Équateur en 16e.
Bon, voilà. Sur l'Équateur, les grosses équipes d'Amérique.
On est certain de prendre l'Allemagne, Jean-Louis?
Non, là je parle de tout le monde finit premier. Si tout le monde finit premier, c'est pas dit que l'Allemagne finisse premier,
c'est un peu difficile en plus les Allemands. Sarah, toi tu es très enthousiaste aussi?
Je suis très enthousiaste, je suis plutôt positif. Alors moi je me suis, enfin vous avez tout dit sur l'équipe de France. Moi, j'ai plutôt regardé finalement les adversaires, parce qu'en fait, on se dit que c'est potentiellement une poule de la mort parce qu'il y a eu le Sénégal et la Norvège. Mais le Sénégal va jouer quand même la CAN. Donc ils ont quand même une compétition de plus.
Et pour se roder et tout ça.
Non, mais pour se roder, oui. Enfin, le rodage c'est une chose.
Vacances, hein,
mais le rodage c'est une chose, mais l'accumulation c'en est une autre. Donc est-ce que aujourd'hui,
tu peux prendre les prix des deux côtés du coup.
Oui, c'est pour ça que je te dis aujourd'hui, le Sénégal va jouer la CAN. C'est a priori France-Sénégal, c'est le premier match qui devrait se jouer le 16 juin. Donc c'est, alors je sais pas si c'est un atout, mais on va pas mettre le Sénégal champion d'Afrique il y a 4 ans maintenant. Ok, c'est une équipe, mais une équipe qui va jouer une compétition plus. Et la Norvège, en fait, on pour l'instant se réduit à un duel Mbappé Haaland. C'est ça qui fait les gros titres.
Attention, on ne parle que de ça.
Oui, mais donc on parle quoi d'un duel d'attaquants. Mais on fait pas un match sur qu'un duel d'attaquants. Donc je veux dire, remettons aussi dans le contexte que on a deux équipes qui sont largement jouables quand tu t'appelles l'équipe de France et que tu fais partie des favoris. Donc c'est en ça où je suis positive. En tout cas, je ne m'inquiète pas plus que ça, en fait. On peut toujours trouver plus fort, on peut toujours trouver moins fort, mais c'est des équipes qui sont largement, largement prenables pour l'équipe de France, sans s'inquiéter.
Après, tu as des exemples qui souviennent-toi. Vas-y, je te
sais. Non, vas-y.
Vas-y, ça a l'air très intéressant ce que tu as
dit. Non, mais pour aller. Il y a eu le tirage au sort de la Coupe du Monde de rugby qui s'est déroulé trois jours avant celui de foot. Et que je trouve que la Coupe du Monde de foot est plus intéressante pour l'équipe de France que le tirage au sort que nous a livré la Coupe du Monde de rugby. Tu vas jouer le Japon, les États-Unis, les Samoa dans une compétition qui est aussi longue que la Coupe du Monde de foot. Là, il va falloir attendre.
Non, mais Chris, on a des attentes avec le 15 de France qui sont quand même totalement différentes avec l'équipe de France.
On court après un titre.
Donc, en fait, on essaie de trouver toutes les bonnes raisons.
Mais l'équipe de France, elle ne court pas après un titre.
Mais bien sûr, on en a déjà eu.
Deschamps aussi.
Et l'équipe de France est favorite. L'équipe de France, le 15 de France, n'est pas favori de la Coupe du Monde.
On est optimiste, mais regarde en Coupe d'Europe, à l'Euro, quand on perd contre la Suisse.
En 2021
Jamais on aurait pensé que tu puisses être éliminé. Non, mais tu avais une belle équipe de France. Souviens-toi, il y avait une belle équipe de France qui jouait très bien. On mène 3-1. On mène 3-1, on se fait reprendre à 3-3, en pénalty, on perd. Non, mais
rien n'est gravé dans le marbre.
Non, mais je suis d'accord avec toi.
Il n'y a pas de bon tirage, en fait, ce que tu veux dire.
Oui, voilà, en gros, même avec une grosse équipe de France, on a perdu contre la Suisse. Je sais pas, moi, il y a des exemples.
Tiens, dans quelques instants, déjà, on va écouter Didier Deschamps, le sélectionneur que nos équipes sur place, Arthur Perrault, Nicolas Pelletier, ont rencontré à Washington pour savoir ce qu'il pense du tirage. On va se poser cette question. Est-ce que la France est vraiment favorite, cette Coupe du Monde? Et avec vous, au 32-16, également, on revient dans un instant dans les grandes gueules du sport sur RMC. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport en direct de l'Alpe d'Huez pour les RMC Sport Games. Tiens, d'ailleurs, on est également visible sur YouTube, hein, sur la chaîne RMC Sport et également sur la chaîne l'Alpe d'Huez TV. Donc faites attention, vous êtes filmés, les amis. On est avec Julien Beneteau, avec Sarah Pitkowski, Christophe Cessieux et Denis Charvet. Tiens, il me semble important pour les auditeurs de vous partager une réflexion de Denis Charvet pendant la pause.
Exprès,
il a fait
si
un
je me lève,
grand
je me lève,
silence.
Écoute-moi, je
les a regardés dans les yeux. Il y a un tirage au sort de l'équipe de France. Il nous a dit les matchs, il faut les jouer. Il est en train de me tabasser.
Ça, c'est l'édito sportif de Denis
Charvet. Je peux répondre.
Violence.
Souvent, les entraîneurs, ils disaient toujours ça. Non, mais toujours.
C'est pour ça que t'es pas
les jouer.
Personne l'a entendu la phrase.
Denis, pourquoi les matchs, il faut les jouer?
Bon, allez, bah. C'est quoi, vous m'emmerdez?
On t'adore. La France, je rappelle, dans le groupe avec la Norvège, avec le Sénégal, et on attend le troisième adversaire qui pourrait être l'Irak, le Suriname ou la Bolivie. Est-ce que c'est un bon ou un mauvais tirage pour la France de commencer aussi fort? Est-ce que la France est vraiment favorite de cette Coupe du Monde? On va se poser la question, mais d'abord, on va écouter notre sélectionneur Didier Deschamps hier nous parler de ce groupe corsé. On l'écoute.
Évidemment, c'est un groupe solide, dense, de par on ne connaît pas le dernier adversaire encore, mais en ayant le Sénégal et la Norvège, évidemment que ce groupe I fait partie des plus difficiles, si ce n'est le plus difficile. Mais bon, c'est la Coupe du Monde, donc voilà, on sait à quoi s'attendre. Aujourd'hui, on a des réponses, à savoir deux de nos trois adversaires, les dates de match aussi, pas encore tout à fait les lieux, même si on sait déjà la zone dans laquelle on jouera nos matchs de groupe.
Voilà, la zone, c'est la côte Est, hein, voilà, New York, Boston et Philadelphie. On en saura plus à 18h aujourd'hui. Vous le suivrez sur RMC pour savoir exactement l'horaire, tout ça, les lieux des rencontres exactes. Tiens, on a Philippe au 32-16 qui nous appelle. Salut Philippe.
Oui, bonjour à toute l'équipe alpine.
Merci, c'est vrai qu'on est là au milieu des la neige et des montagnes. Philippe, pour toi, c'est un tirage, une bonne nouvelle pour nos bleus d'avoir un groupe aussi difficile?
Alors, c'est pas un groupe si difficile. Non, n'oubliez pas une chose, on a quand même une équipe absolument formidable depuis des années. On va en finale, on perd au pénalty, on gagne en 2018. On a des joueurs, des attaquants de talent que le monde entier nous envie. À part l'Espagne, je vois vraiment pas qui pourrait, sur le papier, toujours si tout le monde a un rendement correct, si tous les joueurs sont en forme, ils sont préparés, je vois vraiment pas pourquoi on aurait peur de la Norvège, de la Bolivie et du Sénégal. Pour être champion du monde, faut bien battre les meilleures équipes du monde, sinon ça vaut que dalle. On va pas arriver jusqu'en finale en battant que des baltringues sur le passage. Je comprends pas ce manque de confiance en nous qu'on a. En plus, on a Dédé la chatte avec nous, donc ouais, voilà. Ouais. Finit deuxième.
Il est tout seul, visiblement quand même à Washington. Cette fois-ci.
Non, mais attends, c'est pas fini parce qu'il y a toujours des surprises. Et d'ailleurs, entre parenthèses, si on finit deuxième, d'après les projections, on est mieux que si on finit premier où on prend.
Ce que disait Jean-Louis il y a quelques instants, effectivement, ouais. C'est pas si terrible pour la France si elle termine. Ouais, mais... si elle termine deuxième.
Philippe et tout ça, il revient vers nous, mais.
Non, mais pour prolonger un peu ce que disait Philippe au 32-16 avec nous, il disait voilà, c'est vrai qu'on a les attaquants qui font peur au monde entier. Tiens, cette semaine dans Rotten sans flamme, l'émission de foot de référence sur RMC, Gérard Piquet avait dit que la France était peut-être l'équipe favorite de la Coupe du Monde. À toutes les stars,
ça c'est une info GR25.
Sont sur RMC, c'est une info GR25. Non mais Jean-Louis, tiens, oui. Toi, quand tu suis l'équipe de France, t'es allé un petit peu partout en Europe, par exemple. Quand on parle des Bleus, c'est quoi? C'est les Rolling Stones qui arrive à chaque fois sur place. On est très respecté quand même, on s'en rend pas compte.
Les Rolling Stones, je sais pas, mais c'est vrai quand même qu'on a une grosse équipe, bien sûr, et il y a une récurrence au plus haut niveau sur les dernières Coupes du Monde qui impressionne. Mais il y a un truc quand même, je pense, important dans cette histoire de tirage au sort, et c'est pour ça que je trouve ça bien de jouer des gros tout de suite, enfin des gros, si on peut dire. Ouais. C'est que comme il n'y a pas de préparation, ces premiers matchs vont servir de fin de prépa, en fait. Donc c'est bien d'avoir des matchs pour se jauger tout de suite, sans avoir le coup près de l'élimination forcément. Je pense que Deschamps peut voir ça d'un bon œil.
Même si on n'est pas prêt, au final, ça.
Oui, parce qu'en plus, vu la façon de faire de Deschamps, à la Coupe du Monde, on remet tout à zéro en fait. Il y a une nouvelle équipe à trouver pour un tournoi précis, avec un groupe précis, en fonction des blessures, des états de forme, etc. Donc, il y aura deux matchs de prépa avant, mais qui donne pas trop de tendance. Et c'est vraiment sur les matchs de poule où l'équipe qui devrait aller loin peut se révéler. Ça a été le cas en 2018, ouais, où on a eu du mal au début, notamment le premier match contre l'Australie, et l'équipe s'est révélée au fur et à mesure de la compétition.
Hum. Est-ce que la France est vraiment favorite de cette Coupe du Monde? Est-ce qu'elle est la grande favorite? On se pose la question, Bennett.
Oui, enfin, elle fait partie des... Oui, des...
Philippe parlait de l'Espagne peut-être comme la seule équipe qui peut regarder dans les yeux en termes d'effectifs. Ah, mais, la France, il y a l'Argentine.
Il y aura l'Argentine, tenant du titre, qui sera forcément pas loin. Il y aura peut-être le Brésil qui vont se réveiller. Mais on en parlait tout à l'heure en antenne. C'est vrai que la récurrence des résultats au plus haut niveau sur les différentes compétitions internationales sous Deschamps, on est un peu l'Allemagne des années 80. Et en fait, nous, on n'a pas cette perception-là, parce qu'on a toujours tendance un peu à s'autoflageller, à dénigrer le jeu de Deschamps, mais les résultats, ils sont exceptionnels. Oui.
C'est-à-dire que je pense que tu ouvres les médias dans les autres pays. Et quand on dit dans les autres pays qui est le favori de la Coupe du Monde, je ne vois pas comment la France ne l'est pas. Non, finalement, il n'y a que nous qui avons une hésitation de le dire ou de l'affirmer.
En tant qu'enfant, j'ai regardé 90 et 94 en Coupe du Monde, où on n'y est pas. Mon fils de 10 ans, ils ont déjà vécu des choses exceptionnelles.
Pour ton fils de 10 ans, si la France n'est pas en demi-finale, c'est un échec, quoi.
Exactement. Ils comprennent pas, parce qu'on est fait, on a complètement inversé cette tendance-là. Donc, essayons de la faire durer. Et je suis d'accord avec Jean-Louis sur comment peut se dérouler la compétition. Il y a les trois matchs de poule où, on va dire qu'on va se qualifier et où, en fait, Deschamps va dégager son 11 pour les phases finales. Et après, ça bougera plus. Mais il peut faire des adaptations en fonction des résultats. Une victoire, un match nul, il est pas content d'un élément ou il est en train d'essayer un autre truc, que ce soit au milieu ou en défense. Hop. Et après, pour les phases finales, ça sera gravé dans le marbre et on va essayer d'aller au bout comme ça.
Christophe, toi qui as connu toutes les Coupes du Monde, en 1930, j'ai
avec
moyen
Uruguay,
souvenir.
C'était comment la finale de l'Uruguay?
C'était long pour aller là-bas, tu vois. C'était très, très long.
En bateau à l'époque.
Deux jours.
En bateau,
exactement. Non, mais on réalise pas peut-être la superpuissance qui est devenue la France aujourd'hui au niveau mondial.
Ouais,
mais voilà, il est grincheux.
Non, mais évidemment que c'est une superpuissance. Et évidemment qu'en Coupe du Monde, quand tu disputes 4 finales en 7 éditions, c'est ça, c'est ce qui nous...
Il y a eu 2006, ouais, 98, ouais. 2018 et la dernière.
C'est énorme, mais en même temps, une Coupe du Monde, c'est pas toujours les favoris qui l'emportent. Rappelle-toi de la Hollande en 74, qui était la grandissime favorite qui s'était fait taper par l'Allemagne.
78,
en 74.
Et 78, c'était en 78, la finale en Argentine perdue contre la...
Non, ils sont favoris aussi.
Allemagne, oui, Pays-Bas.
Vous avez tous les deux raison. Vous avez tous les deux raison, mais vous comprenez pas.
Oui, je veux dire, il n'est pas toujours le grand favori qui s'impose. Donc on verra. C'est une compétition qui est ouverte. Il y a quand même d'autres nations que l'équipe de France qui sont capables de remporter cette Coupe du Monde. Tu le disais, l'Argentine, l'Espagne, l'Allemagne en Coupe du Monde. Tu sais jamais ce que ça va
être. L'Angleterre.
L'Angleterre
à chaque fois.
Tiens, alors j'ai regardé justement si on termine deuxième du groupe, on pourrait prendre la Côte d'Ivoire en 16e.
Dans la lignée de Jean-Louis et Julien.
Passons les matchs, faut les jouer. N'oublie pas.
Dans la lignée de Jean-Louis et Julien, effectivement, le dernier match serait ce fameux match qu'on ne connaît pas encore.
Ce serait la Norvège plutôt.
Le dernier match de
poule, ça devrait être la Norvège. Normalement, l'enchaînement, c'est donc Sénégal, barrage,
Gis. Ça ressemble à 2002. On avait affronté une équipe scandinave en dernier match.
En 90, le Danemark.
Le Danemark.
Exactement.
Mais on avait gagné par 2 buts d'écart. Et on a perdu 2-0.
À la maison.
À la trapinette.
Hicham au 32-16 nous appelle. Salut Hicham.
Salut l'équipe.
Bon, est-ce que la France est la grande favorite de la Coupe du Monde, tiens, Hicham? C'est un peu le débat qui nous anime depuis tout à l'heure. Vous êtes d'accord avec ça?
C'est pas du tout. Pas du tout. Je trouve ça assez compliqué dès maintenant de dégager un favori. Je pense que ça va se faire au fur et à mesure de la compétition parce que. Faut les jouer. Il y a beaucoup de pays émergents. Il y a beaucoup d'émergents dans le football, au-delà de l'économie. Il y a beaucoup de jeux.
Et Hicham, sans même les pays émergents, il y a l'Espagne qui fait figure de grand favori. S'il faut en citer c'est l'Espagne.
Les favoris habituels, ça, on les connaît tous. Brésil, Espagne, Allemagne, France. Donc ça, on les connaît parce qu'ils ont un vivier de talent, parce qu'ils ont une formation, parce qu'ils ont un professionnalisme qui dépasse beaucoup d'autres équipes. Maintenant, faut pas banaliser ce que fait le Maroc, faut pas banaliser ce que fait le Sénégal, faut pas banaliser ce que fait une équipe de la Colombie, faut pas banaliser ce que font ces équipes. La Norvège, moi, la Norvège, je vais être très honnête avec vous, ce qu'ils ont fait en, comment ça s'appelle, en,
oui, en
Italie, notamment dans la phase de poule.
Ouais. Non, mais 12 victoires, non, je crois.
Ça donne des poux dans la tête de Deschamps. Et au-delà des noms, il y a des collectifs. Parce qu'on pourrait dire le Sénégal, c'est Mané, Koulibaly, Gueye, ceci, cela. On pourrait dire la Norvège, c'est Haaland, Odegaard. Vous regardez la Norvège jouer, il y a une vraie cohésion d'équipe, il y a un vrai plan tactique. Et donc c'est là où ces grosses équipes, ces grosses nations du foot vont être en difficulté. Donc dégagez dès maintenant un favori, et je vais être très honnête avec vous, on ne sait pas il y aura qui à cette Coupe du Monde. Il y a des blessés tous les 4 matins. Donc l'équipe de France, avec Dembélé, Mbappé, Désiré Doué versus Barcola, Ikitike, je ne sais pas qui, c'est pas les mêmes équipes. Donc dès maintenant, dire que un tel ou un tel est favori, je pense que faut y aller molto bueno maintenant.
Molto bueno.
En tout cas, ça c'est une bonne analyse, bien meilleure que celle du tour de table.
La France a toutes ses chances.
Mais il faut arriver à 100%.
Exactement. Arriver, pas forcément, au moins se dire que à partir des 16e, on est prêt. Physiquement, mentalement, on est prêt et on a envie de taper tout le monde. Maintenant, il y a les arguments pour. Et dernière chose, et après, je vous laisse tranquille. Faut que Dédé, il se lâche. Dédé, lâche-toi. C'est ta dernière Coupe du Monde. Fais-nous rêver. Fais un 4-3-3. Parce que je le sens venir gros.
Ah, bah, tu veux être à la fois un peu prudent. Il faut être à la fois un peu prudent et en même temps, il faut se lâcher.
Non, mais j'ai peur que Dédé. Parce qu'en vrai, de vrai, si tu veux vraiment gagner cette Coupe du Monde, je pense, très honnêtement, il va faire chaud. Il y aura.
Mais pour la Norvège, c'est pas bien.
Il va falloir
un moment. Ils sont pas
très drôle, très très drôle ça. Ok.
Oui, ils sont pas habitués. Oui.
C'est vrai. J'ai jamais chaud en Norvège. C'est excellent.
Ouais. Et donc du coup, moi je pense qu'il va falloir vraiment. Exactement. Va falloir envoyer. Va falloir mettre des joueurs rapides. Va falloir mettre un peu de folie. Parce que s'il me refait une équipe avec un Matuidi bis. Avec 4-4-1 ou 4-4-2.
Ça nous a quand même aidé à être champion du monde, notamment en 2018. Hein. Donc c'est vrai que les Français, Didier Deschamps, il a quand même la recette souvent pour aller au moins dans le dernier carré. Merci Cham d'avoir été avec nous au 32-16. Merci à Philippe également. Et tiens, à l'occasion des RMC Sport Games, d'ailleurs, hein, vous qui nous appelez au 32-16, on a des lots purs essentiels à vous offrir pour vous remercier de votre fidélité. On vous offre votre roller pur Hits, c'est pour apaiser les raideurs, et également des gels et votre trousse pure essentielle pour vous. Merci beaucoup. Merci Jean-Louis. On se retrouve tout à l'heure à 10h. On va parler de l'OM.
À tout à l'heure.
On n'a pas dit un mot sur Donald Trump qui a reçu le trophée de.
Mais qui est passé sur RMC surtout. C'était ça les
dernières.
Oui,
Moscato Show.
Oui, mais c'était sur RMC. On est une grande équipe, Denis.
Ouais, mais toi. Tu aurais dit l'after si c'était l'after, ouais. Je te connais.
Et d'ailleurs, Donald,
bravo Arthur.
Donald, si vous nous appelez, au 32-16,
il a dit d'ailleurs que les États-Unis avaient une chance de gagner, hein, c'était important ce qu'il a dit.
Ouais. Oui, bien sûr.
Ouais, mais il confond le soccer débat. Et le football américain.
Non, il a dit un truc incroyable. Il a dit, faut renommer les sports. Le football, enfin le soccer, c'est le football, donc on va l'appeler comme ça et on va trouver un autre nom pour le football américain.
Ouais, on va être content. Steve. On va lui reposer la question aujourd'hui, à voir s'il a pas changé d'avis. Quand même, il a reçu le prix FIFA pour la paix hier, qui a fait l'unanimité, je pense.
Ah ouais,
tout le monde était assez d'accord pour dire que la paix dans le monde remercie Donald Trump. En tout cas, qu'il avait une grande
contribution.
Voilà. Très beau discours assez poignant de Gianni Infantino. D'ailleurs, je sais pas si comment vous l'avez trouvé. Moi, j'ai trouvé que les mots utilisés étaient vraiment particulièrement bien.
J'ai préféré ce blatter à l'égard de Infantino.
Ouais. Qui lui a été un peu plus dur. Ouais, bon, ils sont pas très fans de l'autre, visiblement. Allez, on revient dans quelques instants pour le zapping dans les grandes gueules du sport. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
En direct de l'Alpe d'Huez pour les RMC Sport Games. On est en direct sur YouTube, sur la chaîne de RMC Sport et à la télé sur l'Alpe d'Huez Télé avec Julien Beneteau, avec Christophe Cessieux, avec Sarah Pitkowski et Denis Charvet. Il faut quand même rendre à Denis ce qu'il y a à Denis, parce que notre auditeur, à quelques instants, a dit les matchs, il faut les jouer. Donc, comme quoi, on analyse.
Comme quoi,
par nos auditeurs.
C'est un influenceur.
Vous êtes un influenceur des temps modernes. T'es un coach entraînant, comme dirait coach Courbis.
Allez, pas ça.
Mais il a influence sur son propre réseau social.
C'est-à-dire que comme il n'est même pas sur Twitter, il influence personne.
À ton âge, t'y es, toi ?
Alors que Twitter n'existe plus,
ça devrait être
Orange là-bas. Merci Bennett pour le fact-checking en direct. Dans un instant sur le ring des GG, est-ce qu'on a vu l'OM trop beau? L'OM qui a chuté hier à Lille, qui a encore raté une occasion de prendre la tête de la Ligue 1. Lille est désormais revenu à hauteur. Ils sont 3e, les Marseillais. Venez voter sur le compte X des GG. On vous attend au 32-16. Tiens, c'est déjà Noël sur RMC. Salut Père Noël. A gagné des MacBook Air, des vacances, des iPhones, des PS5 ou des Switch 2 avec Micromania Zing et plein d'autres cadeaux à découvrir jusqu'au 24 décembre. Chaque jour, vous venez ouvrir la case de notre calendrier de l'Avent. Il est devant nous, là, tiens, calendrier de l'Avent. Et c'est gagné. Pour jouer, envoyez Noël au 7-32-16. Noël au 7-32-16. Vous venez participer. Tout de suite, les GG, vous me dites, on s'en fout pas.
Le zapping des grandes gueules du sport.
Ah, ils sont dissipés.
On dit merci Christophe. Et
oui,
c'est sa voix, non?
C'est lui, c'est sa voix.
C'est la voix off.
C'est David Douillet plutôt, je dirais.
Ouais. Non, mais je pense que le look, il a plus le look du Père Noël quand même.
Oui, hein, oui, Christophe. Oh,
t'as l'air peut-être
qu'il a l'autre en face. Pas
besoin d'être dans le choix qui ressemble au Père Noël. Donc, voilà, c'est curieux Père Noël, visiblement. Je m'en fous pas. En rugby, première journée de Champions Cup. Le champion en titre, l'UBB, va débuter sa compétition aujourd'hui. De l'autre côté de la planète, en Afrique du Sud. Denis, on s'en fout,
on s'en fout pas, non.
Christophe,
on s'en fout pas, non.
Sarah,
on s'en fout pas.
Bennett,
moi je m'en fous aujourd'hui.
Très bien. Bon, écoute, c'est ce que tu veux. Déplacement à Pretoria. C'est à Pretoria que ça se joue à 16h15 heure française, effectivement, pour affronter les Volacam Bulls. Alors vous savez que les clubs sud-africains sont dans la compète depuis 4 ans maintenant. Yannick Bru, le manager de l'UBB, on lui a posé la question: est-ce que la défense du titre est un vrai objectif?
Nous, on ne défend pas un titre, on se lance pour essayer d'en conquérir un autre. On est dans la conquête de quelque chose de nouveau. Ça commence aujourd'hui aux Bulls. On sait que c'est quasiment un huitième de finale. On va aligner l'équipe la plus compétitive possible. On a vu sur nos deux derniers matchs, tout n'était pas à jeter, mais tout n'était pas à garder non plus. On est encore loin des performances de haut niveau. Des atermoiements similaires à ceux qu'on a connus à Montpellier nous exposeront à une défaite lourde.
Voilà. Yannick Bru, prudent avant ce déplacement.
Très prudent parce qu'il ne sera pas éliminé en cas de défaite aujourd'hui. Mais enfin bon.
Oui, mais quand il dit c'est un huitième de finale, c'est en termes de niveau.
Oui, bien sûr.
Si on déplace pour ton premier match en Afrique du Sud,
sachant que chez les Sud-Africains, il y a 12 internationaux quand même. Mm-hmm. Sud-Af. Donc c'est une très très grosse.
Il y en a un paquet aussi côté Bordeaux.
Oui, non, mais c'est du costaud, c'est du très costaud. Et puis,
ils n'ont jamais brillé sur les trois dernières années. Jusqu'à maintenant, les franchises sud-africaines, on ne les voit pas.
Justement, c'est un gros test pour le Bordeaux qui va jouer avec l'équipe type. Donc on attend sursaut, et c'est vrai que le début de saison est plutôt moyen du côté de Bordeaux.
Ils doivent jouer la Champions Cup à fond ou ils doivent se concentrer sur le top 14
là, pour pas gagner? Ils la jouent à fond, hein, puisqu'ils jouent, ils mettent l'équipe type à l'extérieur. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'ils ont beaucoup d'ambition dans cette compétition. Et je fais confiance à Yannick Brude pour pouvoir essayer de tenter le gros coup de gagner d'entrée pour pouvoir être plus à l'aise après.
Et puis on rappelle que l'année dernière, ils remportent la compétition et ils perdent en finale du top 14 pour rien. En prolongation face à Toulouse. Donc les équipes françaises ont la capacité de faire le doublé, donc il ne faut pas sacrifier cette compétition. En plus, elle rapporte quand même pas mal d'argent à des clubs qui tirent un peu la langue.
Et Bayonne tient perdu hier face aux Stormers à Bayonne, défaite 17-26.
Il ne faudrait pas perdre à nouveau face aux Bulls, parce que là on commencera à dire vraiment l'Afrique du Sud a pris dessus sur le rugby français après la défaite lors des
tests. Ce serait les raccourcis.
Ah ouais, on peut faire de très beaux raccourcis.
Et on va suivre Saracens clairement à 14h, La Rochelle Leinster à 18h30. Tous les matchs à suivre évidemment sur RMC. On zappe. Je m'en fous pas. En biathlon, on attend une première grosse performance de nos Français, les garçons, à Östersund en Suède. Christophe,
Je m'en fous pas. Okay. Mais je m'attends pas à ce qu'ils gagnent aujourd'hui.
Aïe, aïe, aïe.
Pas convaincu. Là.
Sarah,
je passe mon tour.
Bennett,
je suis avec Sarah.
Denis,
moi je suis Julien et Sarah.
Allez, hier sur le sprint femme, Océane Michelon s'est classée 3e, place aux hommes aujourd'hui à 16h30 pour le sprint à suivre sur RMC. Ça vaut le coup de ne pas s'en foutre parce que Julien Richard est sur place.
Bah oui,
en Suède. Salut Julien.
Salut tout le monde.
Nos bleus auront à cœur de se rattraper aujourd'hui parce que l'entrée en matière sur l'individuel a pas forcément été très réussie, hein.
Oui, c'était pas Kata, mais ils étaient pas dans le coup, à commencer par Eric Perrault, 10e, Emilien Jacquelin, 11e, le double champion olympique Quentin Fillon-Maillet, 15e. Trop d'erreurs derrière la carabine. Alors, je sais pas si Didier Deschamps peut en tirer les enseignements, mais ce France-Norvège en biathlon, c'est un classique, vous le savez, et le premier affrontement de la saison a tourné assez largement en faveur des Norvégiens, des successeurs de la légende Johannes Bø. Le roi n'est plus là, mais la succession fait rage. Ils étaient 4 Norvégiens dans les 5 premiers sur l'individuel mercredi. Déjà vainqueur en plus du relais masculin d'ouverture face aux Bleus il y a une semaine. Et on a du mal à se dire, c'est vrai que ça va tourner tout à l'heure en faveur des Français. On constate depuis le début de la semaine que les temps sur les skis des Français ne sont pas terrible sur cette neige assez difficile à dompter à Östersund depuis le début de la semaine, qui réussit surtout aux Scandinaves. En tout cas, premier sprint de la saison, et pour les prétendants au gros globe de cristal comme Éric Perrault par exemple, hein, notamment, il ne faut pas laisser trop de points en route et rester placé aussi en vue de la poursuite de demain.
On suit ça évidemment avec toi sur RMC toute la journée. Christophe, t'es pas très confiant pour
je trouve que les débuts en relais on a été très bons la semaine dernière, mais là c'est pas exceptionnel. Il y a eu une troisième place hier réalisée pour les Françaises, mais je vois une Justine Brezaz qui pour l'instant est complètement à la rue. C'est un peu inquiétant, je crois qu'elle est déjà qualifiée parce qu'elle était vainqueur sortante, enfin, championne olympique sortante, donc il devrait pas y avoir de soucis. Mais pour l'instant, en individuel, ils nous ont pas emballé complètement, nos Français. Donc on espère que ce week-end ça va aller mieux.
J-62 avant les Jeux d'hiver, hein, vous retrouvez en piste vers Milan Cortina 2026 tous les dimanches avec toi à 15h dans l'Intégral Sport pour tout savoir sur nos équipes de France RMC Radio officielle des JO d'hiver. On zappe, je m'en fous pas. On remercie Julien Richard évidemment. En natation, Maxime Grousset a décroché hier sa première médaille d'or au championnat d'Europe en petit bassin sur le 100 mètres papillon, sa troisième médaille de la semaine. Bennett,
ah, le petit bassin ça m'intéresse pas.
Oh là là, ben voilà, air zapping.
Désolé.
Denis, ça m'intéresse pas. Sarah,
je suis ravie pour lui, mais ça m'intéresse pas.
Oh bah attendez, Christophe,
le petit bain non plus. C'est...
Mais les mecs, ils plongent. Vas-y.
Bah, attendez, on va les écouter quand même. C'est Kevin Morand qui est sur place. Salut Kevin.
Bah, allez Kevin.
Non, mais Kevin. On s'intéresse à Kevin.
Ah, oui. Exactement.
Voilà, j'aurais dû le tourner comme ça en fait.
Voilà.
Tu es à Lublin, en Pologne, Kevin. Non, mais attendez, il faut minimiser. Il faut parler de Maxime Grousset, néo-calédonien, notre 3 fois champion du monde dans le grand bassin. Il a encore attendu ce week-end. Le français, Kevin.
Oui, Maxime Grousset avait déjà pris une médaille d'argent, une autre en bronze cette semaine, et enfin donc hier c'était l'or sur le 100 mètres papillon devant celui qui a été son grand adversaire des 4 derniers jours, le Suisse Noé Ponti, qu'on pensait intouchable en petit bassin, mais qui a fini à un petit centième de Maxime Grousset qu'on écoute.
Je me voyais derrière et j'ai cru jusqu'au dernier coup de bras, quoi. Je me suis lancé, voilà, encore une fois à la touche. Il y a peu de choses, en tout cas à chaud, sur lequel je peux progresser. Donc voilà, pour l'instant, c'est ma course parfaite du moment et je pense faire un gros 100 mètres.
Le 100 mètres nage libre dont la finale est ce soir et dont il est le favori en étant tenant du titre. On est en petit bassin, donc la concurrence est forcément moins présente. David Popovici, par exemple, champion du monde et d'Europe en grand bassin, est absent. Tant mieux pour Grousset qui a dominé hier soir. Laissé les demi en gestion, il rêve d'un doublé, voire d'un record d'Europe. Denis Hauguin, directeur technique national.
Le 100 crawl, c'est toujours quelque chose d'important pour Max. C'est sa course, on va dire. Après, il est tellement attiré par cette course, pas que des fois, elle empêche un peu de s'exprimer. Donc, pas se mettre une pression particulière par rapport à cette course, parce que c'est justement le 100 crawl. Il prend du plaisir, bien sûr, il s'amuse, mais il nage beaucoup.
Avec aujourd'hui aussi la série et la demi du 50 mètres nage libre. Et puis on surveillera l'autre tête d'affiche française ici à Lublin, Beryl Gastadello. Et en finale, ce soir, également du 100 mètres nage libre.
Merci Kevin, on suit ça évidemment avec toi sur RMC tout au long du week-end. Merci beaucoup, merci à Julien Beneteau pour sa participation à ce zapping, merci à vous.
C'est important de savoir passer son tour.
Mais même pas parler de c'est que ça. Ouais.
Attention, pour mieux revenir à
10h sur le débat.
On n'a pas parlé non plus de NBA, on n'a pas parlé non plus.
Non mais Paul Sexa, c'était dans le programme, c'est pour ça que je le dis.
Oui mais tu sais, on a un chrono et on est en retard. On arrive tout de suite dans les grandes gueules du sport. On revient dans quelques instants, à tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.